Tout de suite, la deuxième partie de la grande table jusqu'à 13h30. L'actualité des idées dans la deuxième partie de la grande table et le retour de la querelle identitaire sous la plume acide, acidulée du géographe Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote, et du géopolitologue Frédéric Ancel, professeur de relations internationales et signataire du manifeste pour un printemps républicain lancé en mars dernier, association manifeste lancée par le politologue Laurent Bouvet qui rassemblait les tenants d'une laïcité ferme, notamment sur une ligne dont on reparlera au fil de cette demi-heure. 20 ans après, vive la nation, destin d'une idée géopolitique, déstabilisée par la construction européenne, la mondialisation et les défis de l'immigration. Yves Lacoste, vous nous revenez donc avec cet essai « Géopolitique de la nation France » qui vient de paraître au PUF, les presses universitaires de France. Par géopolitique, vous entendez tout ce qui relève des rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires et les populations qui y vivent. La géopolitique, un terme qu'on peut appliquer à notre propre pays. Vous estimez l'un et l'autre aujourd'hui qu'il y a péril en la demeure nation, que la menace est autant extérieur qu'intérieur et qu'il faut se protéger des assauts conjugués de l'islamisme radical et de la complaisance d'intellectuels à son égard. Bref, la bataille culturelle est identitaire ou ne sera pas, ajouterait Manuel Valls, le Premier ministre pour qui cette bataille passerait désormais avant l'économie et le chômage. On se souvient de ces mots qu'il avait prononcés au théâtre des Jazets en avril dernier. Manuel Valls, ténor de la gauche à vos yeux, pour porter et défendre sans complexe le thème de la nation. Il ne subsiste pratiquement que lui, avec son fidèle lieutenant Jean-Marie Le Guen qui déclarait encore récemment au Monde « Le thème de l'identité nous est imposé par la situation géopolitique et les difficultés objectives comme le terrorisme ». Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être là pour évoquer ensemble cet essai « Géopolitique de la nation France » qui vient de paraître au PUF. Dans les pas, dans le sillon de Manuel Valls, Frédéric Ancel, la nation est-elle en train de repasser à gauche pour vous ?
Il faudrait surtout que l'ensemble des citoyens se la réapproprient, au sens où une grande partie de la gauche l'a abandonnée. Et c'est d'autant plus grave que au début et au milieu d'ailleurs de la Troisième République, cette grande Troisième République qui a été, qui a porté les fondements de nos institutions actuelles, de nos valeurs actuelles, en passant d'ailleurs par 1905, mais pas seulement, hein, par la loi de séparation d'Église et de l'État, eh bien la nation était bien évidemment un concept de gauche. Hein. La République des Jules, jusqu'à d'ailleurs un Jean Jaurès qui en 1911 écrit un traité de stratégie militaire dans lequel il vante l'armée de la nation, mais de la nation au sens bien évidemment ouvert, au sens inclusif, au sens populaire du terme. Eh bien, la nation a été pendant très longtemps de gauche. On pourrait d'ailleurs remonter sans doute à Valmy, mais je pense qu'Yves Lacoste en parlera mieux que moi. Et par conséquent, il y a eu un basculement qui s'est fait jusqu'au contresens. Dans les années, à partir des années 30 et 40, et puis bien évidemment avec la haute trahison d'un Pétain et à Vichy, eh bien, la nation a été stigmatisée par une grande partie de la gauche comme étant une valeur de droite, voire d'extrême droite. Or, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a stigmatisé, à juste titre, le nationalisme, autrement dit, le chauvinisme, une forme de populisme extrêmement proactif et belliqueux, et on a sacrifié la nation sur l'autel de cette condamnation. Or, j'affirme que la nation, c'est une représentation qui dépasse en qualité le clan, la tribu, la clientèle, la communauté. Et aujourd'hui, plus que jamais, me semble-t-il, il faut donc que tous les citoyens, de droite comme de gauche, hein, se réapproprient cette nation qu'un parti politique a pu tenter de privatiser, hein, ou de s'accaparer. Or, la nation, ça appartient réellement à tout le monde.
Frédéric Ancel, après des années donc de démission et d'inversion ironique des valeurs, écrivez-vous, après avoir brûlé ce qu'on a adoré au motif que le diable s'est emparé de l'idole, il est donc temps de se réapproprier ce beau mot de nation. Yves Lacoste, il y a 20 ans, vous vouliez combattre la montée du Front National en ne lui laissant pas le monopole du mot nation. Aujourd'hui, on pourrait commencer à vous reprocher d'alimenter ce discours du Front National et de vous rapprocher assez dangereusement de son logiciel de pensée. Alors, qu'est-ce que votre nation a de différent? Qu'est-ce qui vous distingue?
Écoutez, Front National ou pas, de toute façon, la gauche en France à cesser de se référer à la nation, sauf dans certaines circonstances, sauf certains hommes politiques. Je relisais Vive la nation et j'y notais que Lionel Jospin, dans son grand discours de politique générale, hein, en 1987, avait cité, à ma grande surprise d'ailleurs, 10 fois le mot, avait utilisé 10 fois le mot nation. Hein. Mais on avait continué à parler de la République. Hein. La République, c'était convenable, la nation, oh là là, etc. Il se trouve que le titre du livre qui a été publié chez Fayard, au dernier moment, alors que les épreuves étaient déjà prêtes, on m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On met des guillemets, puisque c'est la clameur de Valmy, hein, ou non? Et j'ai dit non, on ne met pas de guillemets, puisque je l'assume. Donc pour moi, la nation, c'est très important, et que le Front National en parle, bon, c'est son droit, hein, c'est son droit, ça n'empêche absolument pas des gens d'extrême gauche d'en parler. Ils ne veulent pas en parler.
Mais est-ce qu'il en parle de la même manière que vous, Yves Lacoste? Est-ce qu'il définit la nation de la même manière que vous? Et je rappelle que vous évoquiez à l'instant donc votre ouvrage « Vive la nation » sous-titré « Destin d'une idée géopolitique » qui est paru en 98.
Oui.
Et qui est effectivement le point de départ de cet ouvrage écrit à deux mains, voire à quatre.
Oui.
Bien, écoutez, comment vous la définissez, votre nation?
Oh, vous savez, c'est très difficile. Hein, j'y retravaillais récemment. C'est très difficile. La nation, c'est un terme qui a une charge affective. D'abord, c'est le mot nation désigne un phénomène d'égalité. Sur le territoire d'une nation, les hommes et les femmes, ce qu'on ne disait pas autrefois, les hommes et les femmes, sont en principe égaux. Bon, c'est comme ça que ça commence, le terme de nation. Si, sur ce territoire, et la notion de territoire est très importante, bon, c'est pas une notion comme ça. Il faut faire très attention à certaines définitions du dictionnaire. Par exemple, le dictionnaire Larousse dit des hommes de même origine. Attention, c'est très dangereux, Parce qu'on va dire, on n'a pas la même origine. Les Bretons vont-ils dire qu'ils ont la même origine que des Parisiens ou des Savoyards? Donc, il faut se méfier, comme la peste, de la notion d'origine. Bon. Et sur un territoire, les hommes et les femmes, aujourd'hui il faut bien souligner, sont égaux. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits politiques. Et ça pose un problème dans la France d'aujourd'hui. C'est que on a accueilli, à partir de 1962, des Algériens, puis des Marocains, qui ne sont pas français, ne sont pas devenus français pour cela. Mais leurs enfants, après la loi de 1890, sont devenus français sans le demander. Bon. Or, ce problème...
Moi, je n'ai pas demandé non plus à être française. Je suis née sur un territoire et j'en ai eu la nationalité qui en découle. Il ne me semble pas avoir fait la demande. D'accord, vous rassurez-moi. Vous également, d'accord.
Un bébé qui naît en France de parents français et né en France... Il n'a pas demandé la nationalité.
Non, parce qu'il y a ambiguïté quand vous dites ils ne l'ont pas demandé. On l'a tous pas demandé, on est d'accord?
Non, pas tous.
Certains de leurs parents l'ont demandé, en revanche.
Oui, leurs parents l'ont demandé. Bon. Donc, mais aujourd'hui, c'est un problème très délicat, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes maghrébins, quel que soit leur statut social, qui disent... Bon, on dit que je suis français, mais je ne l'ai pas demandé. Bon. Pour certains, ils s'en félicitent. Pour d'autres, ils considèrent qu'on leur a collé une nationalité. Ce dont ils profitent tout de même pour ce qui est des papiers, pour ce qui est de la sécurité sociale, pour ceci, pour cela. Hein. C'est un problème pour la première fois en France qui se pose comme ça. Autrefois, avec la loi de 1890, hein, des gens qui étaient venus d'ailleurs, leurs fils, c'était les fils, hein, devenaient citoyens français par obligation pour faire leur service, pour être obligés de faire le service militaire. Maintenant, ça ne se pose plus. Pour ma part, si j'insiste tant sur ce problème des Algériens, y compris de ceux qui avaient combattu l'armée française pendant la guerre d'Algérie, hein, qui sont venus en France, se réfugier en France contre la dictature de ce qui se passait en Algérie après l'indépendance de l'Algérie, c'est parce que mes liens avec l'Afrique du Nord sont particulièrement étroits. Et si je le fais, c'est justement en sachant très bien que ça pose des problèmes. Hein. Je suis né au Maroc, je suis très fier d'être né à Fès. J'ai passé toute mon enfance. Je sais qu'il y a des choses qui m'aident à penser. Mon outillage intellectuel vient pour une part de là de mon père, qui était au Maroc, hein, qui était français, qui était un géologue français. Bon. Donc si j'en parle, je sais très bien que c'est embarrassant. Mais je pense que, pour ma part, c'est de mon devoir d'en parler à propos de la nation France.
Alors justement, pour ce faire, on en revient à vous, Frédéric Ancel, dans quelques instants. Yves Lacoste, parce que vous avez écrit chacun un chapitre du livre, hein, donc développer des thèmes qui vous sont effectivement plus ou moins chers, alternativement, chacun votre tour.
Tu parles de la République, moi je parle de la nation.
Voilà, et alors Yves Lacoste, il est urgent, selon vous, à en croire cet essai, de réhabiliter la nation dans une ère post-coloniale, son ère post-coloniale. Vous appelez à contrer les discours actuels qui dénoncent métaphysiquement le colonialisme, et vous dénoncez la posture de repentance et l'accent qui est mis notamment sur l'enseignement du fait colonial en France, dans les écoles, dans les lycées, parce que ça nourrirait la haine des enfants d'immigrés à l'égard de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pour vous, occulter cette période de l'histoire des manuels scolaires?
Pas du tout, au contraire.
Il ne faut pas reconnaître notre responsabilité dans ce qui s'est passé les déséquilibres que ça a pu engendrer?
Bien sûr, mais il faut raconter la conquête, les conquêtes coloniales, avec suffisamment de précision. Et il y a un problème très embarrassant, c'est que le phénomène colonial qui me passionne, parce que j'y suis né, hein, s'est fait avec des effectifs extrêmement restreints. On dit les Européens ont conquis. C'est pas les Européens, c'est pas les Français, c'est pas les Anglais. C'est des effectifs extrêmement réduits. Pour les Anglais, c'est des employés de compagnies de commerce. Il n'y a pratiquement pas eu de soldats britanniques qui ont conquis. En France, c'est des effectifs très restreints de l'armée ou de la marine française. C'est une très grande différence.
Donc ce n'est pas la France qui a colonisé l'Algérie, c'est un petit groupe restreint d'hommes, c'est ça?
Attendez, c'est le cas de l'Algérie, justement.
Ou le Maroc. Alors, distinguer, pardon.
L'Algérie, c'est un cas très particulier où on dit la France a conquis l'Algérie en 1830. En fait, il y a un corps expéditionnaire qui a pris pied en Algérie, mais on ignore, on ne dit pas la situation géopolitique de la France. La France est encore sous la coupe de la Sainte Alliance. Et pour les Anglais, il n'est pas question que les Français prennent pied en Algérie, parce que ça enlève la portée stratégique de Gibraltar. Et la France est en une situation de dépendance diplomatique à l'égard de la Grande-Bretagne. Donc, la conquête de l'Algérie, c'est l'exemple même de l'affaire qui tourne mal, qui n'est absolument pas gérée de Paris, mais par des généraux qui ignorent, celui d'Alger ignore ce qui se passe à Oran, hein, à l'époque. Bon. Et il y a une des choses que je crois qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu un grand loupé par la faute et des Français et du personnage dont je vais parler, c'est Abdelkader. Hein. Abdelkader est un personnage extrêmement important qui aurait pu, si vous voulez, faire de la conquête de l'Algérie l'opération que les Anglais ont fait en Inde. C'est Anglais, les Anglais n'ont jamais combattu tel ou tel Nabab ou Maharaja, mais ont soutenu, etc. Et Abdelkader a été reconnu par les Français commandeur des croyants et émir.
Voilà, donc ça, en racontant cette histoire de la colonisation, pour vous, il y a aussi une manière donc de réhabiliter la nation. Et pour vous, Frédéric Ancel, vous déplorez aujourd'hui que les hommes politiques préfèrent invoquer la République plutôt que la nation, comme une idée dépassée. Donc, elle se présente comment, votre nation ? C'est une nation qui intègre ou c'est une nation qui va être plus excluante ou exclure ceux qui ne veulent pas s'y intégrer, selon vous ? Selon quelles valeurs va-t-on faire nation ou refaire nation ?
Alors, tout à l'heure, j'évoquais bien évidemment la nation comme étant un concept inclusif. Et pour moi, la République...
Inclusif de qui ?
Inclusif de tous ceux qui acceptent fondamentalement à la fois les lois républicaines, puisque la République encadre notre nation, et tant mieux, j'ai effectivement tenu à faire un chapitre entier sur la République, qui est un cadre institutionnel, ce n'est pas une représentation. Mais la nation française, depuis maintenant plus de deux siècles, privilégie le plus souvent, quasi toujours, ce système républicain. Cette République, elle est fondamentalement démocratique, et par conséquent, la nation est évidemment inclusive, non seulement de gens qui ne sont pas nés sur ce territoire, et je rejoins ce que dit Yves Lacoste, il ne s'agit absolument pas de revenir aux origines, et je réponds à la question qui ne m'était pas posée, c'est cette nation est inclusive parce que elle ne se fonde évidemment pas sur une origine ethno-religieuse. Or, aujourd'hui, ceux qui contestent, pour une part très importante, de ceux qui contestent la nation, eh bien, on retrouve parmi eux soit des populistes extrémistes qui jouent précisément sur les origines et qui souhaitent rétablir une nation fondée sur ses origines. Ce n'est absolument pas notre cas et c'est pas mon cas. Par ailleurs, nous avons en face des islamistes qui ont un projet politique extrêmement clair, qui est à la fois anti-républicain, c'est-à-dire anti-démocratique, anti-égalité homme-femme, évidemment, anti-liberté culturelle, et qui conteste absolument cette idée de nation. Car s'il existe une nation France qui inclut, je le répète, qui inclut bien évidemment des millions de Français d'origine musulmane, qui d'ailleurs, pour la grande majorité d'entre eux, s'y sentent manifestement bien, vous savez ce que disait Renan, hein, après tout, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Eh bien, l'immense majorité de nos concitoyens d'origine ou de culture musulmane accepte ce collectif, cette représentation collective, et je le répète, si ce n'est pas la nation, alors ce sera le clan, la tribu, la communauté clientéliste et par conséquent la criminalité.
C'est là
avec, et
pas,
on le voit au Proche-Orient.
C'est là où vous n'êtes pas très clair quand même, Frédéric Ancel, dans cet ouvrage, sur comment protéger cette nation de l'islamiste, que vous considérez donc comme une menace civilisationnelle, parce que justement les islamistes, pour vous, détesteraient la nation, il faut donc les en exclure. Et comment faire pour les distinguer des musulmans français qui font aujourd'hui la nation, c'est pas simplement qu'ils en font partie, ils sont aussi la nation telle que Yves Lacoste vient nous le définir. Comment faire ça sans les stigmatiser ?
Il s'agit simplement de respecter la loi. Et c'est là où la République, pour moi, est une réalité au moins aussi importante que la représentation de nation. Les islamistes radicaux ne respectent pas la loi. Ils ne la respectent pas parce qu'ils détestent la République, mais également, encore une fois, ce collectif de nations. Et ça les gêne considérablement parce qu'au sein de la nation française aujourd'hui, eh bien, un nombre très important de leurs compatriotes musulmans, eux, s'y sentent parfaitement bien. Oui. Donc c'est pas une question de c'est surtout pas mon propos de stigmatiser des gens en fonction de leur de leur accoutrement vestimentaire ou de leurs propos, à condition.
Mais c'est quand même un peu de ça dont vous parlez, parce que quand vous parlez de respecter la loi, on parle pas des infractions routières, on est d'accord.
On est bien d'accord, puisque là il s'agit bien évidemment de respecter ou ne pas respecter les fondamentaux. Or les fondamentaux, ils sont inclus dans notre constitution dès le préambule, hein, et je pense que vous le connaissez par cœur, comme d'ailleurs tous nos auditeurs.
Donc la question de la laïcité redevient quand même au cœur du clivage, hein, entre une interprétation plutôt ouverte ou plutôt fermée, stricte, radicale de la laïcité. Vous prenez directement parti, effectivement, dans cet ouvrage. Pourquoi, pour autant, réactiver cette querelle identitaire ? Vous y allez quand même assez fort contre ceux qui ne partagent pas vos positions. Cette gauche multiculturaliste, hein, qui fustige l'islamophobie, trouve des excuses sociales un peu partout. Vous les qualifiez d'idiots utiles. Il y a quand même un propos qui est très direct contre ça. Alors, on va écouter Edwige Plenel, Guénel, le fondateur de Mediapart, sur notre antenne et expliquer, selon lui, pourquoi il ne faut pas tomber dans un refus des minorités.
Le multiculturalisme, c'est simplement reconnaître la réalité d'une société, mais surtout, c'est promouvoir l'imaginaire qui va nous réunir et nous rassembler pour faire face aux idéologies totalitaires qui veulent nous frapper et qui ont dramatiquement frappé et frapperont peut-être demain notre pays en 2015. Ces idéologies totalitaires sont celles du refus des minorités, du refus de la pluralité d'une société. Il y a toute forme de minorité. Il y a des minorités. Le combat pour les droits des femmes, c'est le combat par rapport à la construction d'une minorité politique, d'une partie, la moitié de l'humanité, mais qui est mise en condition de minorité politique. Il y a des minorités d'apparence, des minorités de croyance. La laïcité française de 1905 est un événement extraordinaire, car justement, elle est la reconnaissance des minorités, elle est de dire à la religion extrêmement majoritaire de l'époque, nous étions un pays à dominante rurale et paysanne, le catholicisme, qu'il n'a pas plus de droits, qu'il a les mêmes droits et les mêmes reconnaissances que les deux cultes minoritaires reconnus de l'époque, l'islam et Tégas oubliés à cause du colonialisme, que sont le protestantisme et le judaïsme.
Yves Lacoste, la laïcité, c'est aussi la reconnaissance des minorités, nous dit Edwy Plenel. Ça ne sera pas la colonisation, on l'a bien compris avec vous à l'instant. Alors, quel imaginaire pour nous réunir ?
D'abord, je souscris tout à fait à ce que dit Plenel. Hein. Je pense que nous pouvons être fiers des musulmans qui sont en France. Hein. Ils ont joué un rôle très important, et ils vont jouer un rôle important. Hein. Et compte tenu de l'importance que les pays arabes, que le monde arabe, si Dieu le permet, hein, je dis ça avec des guillemets, hein, c'est pas, se développe comme on peut l'espérer, eh bien, ils joueront, ces musulmans français joueront un rôle de plus en plus important. Il y a une élite, si vous voulez, d'origine algérienne ou marocaine, bon, qui, on en parle moins que ceux des quartiers considérés comme des ghettos, hein, ou qui sont devenus des ghettos, mais ils jouent un rôle de plus en plus important. Une partie de mon livre est justement fait à leur intention, et je pense qu'il faut davantage les aider. Peut-être, s'ils le souhaitent, apprendre l'arabe ou le berbère, bon, en leur montrant la valeur culturelle que ça peut avoir pour nous. Je parle très longuement de cet formidable historien du Moyen-Âge, Ibn Khaldoun, qui, moi, a une importance considérable. Bon, et il faut en parler. Je pense qu'il faut qu'ils se sentent en France comme étant là où ils peuvent le mieux à l'heure actuelle contribuer au développement d'une civilisation franco-arabe.
Une civilisation franco-arabe. Frédéric Ancel ?
Oui, non, mais c'est ce que Manuel Valls appelle les deux gauches irréconciliables. En mettant systématiquement en avant le concept de minorité.
C'est quand même embêtant, pardon, pour un Premier ministre, effectivement, de faire le constat, Premier ministre qui est censé rassembler, de faire le constat d'un clivage absolument insoluble et irréconciliable de la gauche aujourd'hui.
Il fait le constat, mais vous savez, il faut pas casser le baromètre. Hein. Il fait le constat, oui, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas lui qui provoque ce clivage. Et par ailleurs, c'est plutôt au président de rassembler en France. En tout cas, selon la Constitution de 58...
Il ne provoque pas, mais il en est ténor, en tout cas, pour vous, d'une certaine gauche.
Hein. C'est exact. Mmh. Celle que je soutiens. Ça ne nous aura pas échappé. En mettant systématiquement en avant le concept de minorité, mais qu'est-ce qu'on fait ? On pousse à une forme de subjectivité qui étiquette des gens. Je me refuse à considérer qu'il y a des musulmans, il y a des Français de culture, d'origine, de tradition musulmane qui le vivent comme ils l'entendent. Et si vous voulez, à force de considérer que nous sommes tout un agglomérat de clans, de tribus, de minorités, j'employais des termes un petit peu forts, clans et tribus, mais après tout, pourquoi pas, ou de communautés, eh bien, si vous voulez, je pense qu'on risque d'aller vers des lendemains qui déchantent, et à la fin des fins, il y a ce que j'appelle, connaissant assez bien le Proche et le Moyen-Orient, des risques de véritables guerre civile, de confrontation extrêmement dure, car n'importe quel groupe, en l'occurrence radical, islamiste ou pas d'ailleurs, pourra demain se prévaloir d'être une minorité et par conséquent de réclamer et d'exiger des droits afférents à ce statut. Il n'y a pas de statut de minorité en France, il n'y a pas de statut de communauté en France. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas libres et égaux devant la loi, ils le sont bien évidemment, mais le multiculturalisme mène à un relativisme qui m'a toujours beaucoup posé problème. Je pense que le relativisme culturel, c'est la possibilité pour chaque chef, en général autoproclamé d'ailleurs, hein, d'un clan ou d'une clientèle, de prendre le pouvoir au sein de ce qu'il considère comme étant sa communauté et d'y appliquer des lois autres que celles de la République. Et c'est un danger, me semble-t-il, pour la démocratie.
Mmh. Justement, Kulturkampf, guerre civile, vous évoquez même l'apparition d'une cinquième colonne dans cet essai. On est vraiment dans cette situation-là aujourd'hui, Frédéric Ancel ?
On risque de l'être. Alors, est-ce qu'il faut attendre que nous soyons sur les prodromes
de cette... Mais vous l'avez vu où, cette cinquième colonne ?
Aujourd'hui, les salafistes, d'une part, les frères musulmans, d'autre part, ont un projet politique extraordinairement clair, mais ils l'expriment. Ils le disent, ils l'écrivent, et je ne parle pas que de d'Abik, la publication de Daesh. Et ces dernières années, ils mènent, ces deux organisations, et ces deux confréries en particulier, un combat extrêmement dur contre à la fois cette représentation du collectif national, après tout, appelez-le nation, appelez-le patrie, peu importe, et contre les lois de la République. C'est, à mon sens, effectivement, les acteurs de ces deux groupes sont effectivement aujourd'hui une cinquième colonne. Le mot est, si vous voulez, le mot est pamphlétaire, le mot est perçu comme virulent. Mais pardon, il y a deux ans et demi...
Il relève surtout d'un esprit complotiste aujourd'hui, de la manière dont il peut être utilisé, et il implique que quelque part serait caché, masqué effectivement une armée, une petite armée d'hommes prêts à assaillir de l'intérieur le pays et d'en renverser complètement les règles et la composition.
Mais elle n'est pas cachée, il n'y a pas de complot. Lisez ce qu'écrivent les salafistes. Lisez ce qu'écrivent les frères musulmans. On est aujourd'hui au courant de tout ce que les prédicateurs, à la fois depuis le Qatar, l'Arabie Saoudite ou d'un certain nombre de mosquées françaises qui ont été stigmatisées à juste titre par le pouvoir et notamment par le ministère de l'Intérieur ces deux dernières années, disent et écrivent. Je n'invente strictement rien. Et je dirais qu'aujourd'hui, les personnes les plus menacées par cet intégrisme, ce sont des musulmans et pas n'importe qui, ce sont en particulier les femmes musulmanes. Et si vous voulez, on n'est pas sur quelque chose qui relève du complot, mais sur un projet politique qui va absolument contre à la fois les valeurs et les lois de la République et du principe collectif, encore une fois, appelez-le comme vous voulez, national ou patriotique. Donc c'est pour ça que la cinquième colonne est un terme fort, mais notre livre, et je crois que Yves Lacoste ne me démentira pas, en pleine campagne présidentielle, s'inscrit dans la volonté de lutter sur deux fronts, à la fois contre l'islamisme radical et contre un populisme extrémiste qui précisément va jouer de cette peur-là.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement les termes que vous employez, de la cinquième colonne à cette guerre dans laquelle on serait aujourd'hui prise. On va en venir rapidement aux solutions parce qu'il nous reste assez peu de temps, Yves Lacoste. Et ensuite d'appeler à refaire nation, alors que vous n'évoquez que des clivages. On a quand même du mal à voir quelles sont les valeurs communes, selon vous, qui pourraient prédominer. Et surtout, vous en appelez à réenchanter la République et la nation aujourd'hui. Alors, comment faire, Yves Lacoste ? Ce réenchantement passerait notamment pour vous par beaucoup de pédagogie. On l'évoquait tout à l'heure avec l'enseignement notamment de la colonisation à votre manière, mais oui, aussi par la restauration de l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie l'armée là où il faut, dans les quartiers, à vous dire.
Je ne souhaite pas qu'il faille envoyer l'armée. Hein ? Mais si jamais, malheureusement, éclataient des phénomènes de sédition dans certains quartiers, hein, l'espace étant tout de même pas très vaste, bon, ben, il faudra faire ce qu'il faudra faire. Hein. Autant je dis que cette histoire de voile islamique, ben, si des jeunes femmes ou des dames âgées veulent le mettre, eh bien qu'elles le mettent. Si elles se trouvent mieux comme ça, belles comme ça, bon, ben, on ne va pas en faire une comédie. À un moment, lorsque Camille Lacoste, ma femme, a écrit sur le voile islamique, c'est un moment où on pensait que c'était une forme d'autorité musulmane qui s'exerçait à l'école. Bon, maintenant, ça s'est généralisé, bien. Il y a beaucoup de femmes qui le mettent sans pression. Eh bien, elles ont le droit, hein. Il faut pas aller chercher cette histoire de voile pour en faire, on va dire, pour en faire des histoires.
Donc on n'envoie pas l'armée contre les femmes voilées. Ça, si je vous ai bien compris.
Ça me paraîtrait.
Ce péril géographique, très sérieusement quand même, vous le situez clairement, il se nicherait selon vous dans les banlieues aujourd'hui.
Dans les grands ensembles.
Dans les grands ensembles, voilà.
Voilà.
Foyer de cet islamisme
radical. Et je fais
cette
histoire des grands ensembles qui n'ont pas du tout été construits pour être des ghettos, mais ils ont eu une évolution du peuplement. Voilà.
Frédéric Ancel.
Oui, et pas seulement, parce que les djihadistes depuis Khaled Khelka et Mera et jusqu'au tout dernier terroriste ayant abattu un prêtre n'étaient pas exclusivement issus de ces quartiers-là, d'une part. D'autre part, ils ne correspondaient pas à une espèce de lumpen prolétariat qu'un certain nombre de militants essayent de nous, si vous voulez, de nous ancrer comme une nouvelle réalité. C'est un mythe de substitution. Ce n'est pas vrai. Ces gens-là n'ont pas eu faim. En revanche, la République a vraisemblablement échoué ou péché en matière de pédagogie, d'une part, à l'école, d'autre part, sans doute en matière sociale. Et je rappelle quand même que celui qu'on a mentionné tout à l'heure, Manuel Valls, immédiatement après le massacre de Charlie, parlait d'apartheid social. C'est-à-dire qu'on est là aussi sur une dimension sociale extrêmement importante, à ne pas négliger, mais simplement, je ne cherche pas à la minimiser, simplement, ce n'est pas pour cela, et ce n'est pas parce que la France intervient au Mali, en Syrie et en Irak, que nous sommes détestés par les islamistes radicaux. Je renvoie encore une fois à toute une littérature et à une scénographie qui est extrêmement importante, abondante, et qui doit nous démontrer que ces gens-là nous haïssent parce que nous sommes, et non pas parce que nous faisons quelque chose. Donc ce ne sont pas les banlieues ou des quartiers en particulier qui sont stigmatisés, mais des acteurs politiques ou politico-religieux qui cherchent effectivement à modifier fondamentalement notre système de valeurs.
Alors vous ne pensez pas l'un et l'autre qu'il serait quand même peut-être urgent de sortir de ce piège identitaire, quelle que soit la personne, quels que soient ceux, les groupes qui seraient en train de nous le tendre. On a quand même le sentiment aujourd'hui que beaucoup d'entre vous, de chercheurs, d'intellectuels, sont en train de tomber en plein dedans. On va écouter, pour terminer, et avant de vous donner le mot de la fin, les mots de Raphaël Glucksmann, jeune essayiste, qui sort en ce moment même « Notre France » chez Alary Édition, un retour aux sources de la France telle qu'elle s'est constituée, un plaidoyer selon lui pour une France humaniste et cosmopolite contre la tentation du repli qui submerge, selon lui, notre nation.
La situation est si grave qu'à mon avis, il faut reprendre la bataille culturelle et la bataille des idées à la base. On ne pourra pas faire triompher un programme progressiste en France si jamais 60% des Français sont pour la peine de mort ou si 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans le pays ou si les droits de l'homme sont considérés comme une insulte. Vous savez, le droit de l'homme, c'est devenu une insulte fréquente absolument partout. Je pense qu'il faut assumer la bataille culturelle d'abord, assumer la bataille des idées, et ensuite, à d'autres, de traduire ça en propositions concrètes. Mais quand Zemmour, Buisson et les autres font des livres qui font basculer culturellement la France dans une forme de repli sur soi et de xénophobie, eh bien, ils ne proposent pas un programme, ils mènent une bataille culturelle. Et pour moi, la bataille culturelle, c'est ce qui va définir les résultats politiques demain.
Voilà, la bataille culturelle, la querelle identitaire, Frédéric Ancel, un mot de la fin. Est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce piège ?
Mais pardon, mais vous savez que la bataille culturelle, c'est ce qu'on appelle le Kulturkampf. Donc je suis absolument d'accord avec ce que mon ami par ailleurs, Raphaël Glucksmann, vient de dire. La nation, elle est progressiste, elle est inclusive. Et j'ajoute un dernier mot, j'ai toujours combattu et je continuerai de le faire en particulier avec cet ouvrage, contre les Zemmour et les Buisson qui viennent d'être cités à juste titre par Raphaël Glucksmann, car nous n'avons pas du tout la même, et lisez le livre, évidemment, et vous l'avez lu, et vous en rendez bien compte, nous n'avons absolument pas la même idée de la nation. Mais ce n'est pas parce que nous avons des gens populistes ou d'extrême droite qui vantent une nation ethno-religieuse que nous, progressistes, nous parlons de la même nation. Nous parlons d'une nation progressiste, inclusive et bien évidemment démocratique.
Merci beaucoup Yves Lacoste et merci à vous Frédéric Ancel. Géopolitique de la Nation France vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Perret Legras à la réalisation et à Jacques Hubert qui était avec lui aujourd'hui aux manettes.